Chapitre 6. Des heures, des journées lassantes, dont chaque seconde semblait traîner à plaisir et pendre au-dessus du vide avant de s'y effacer pour jamais. Elle, gardant toujours une assurance rigide, et lui attelé à ses doutes avec une exaspération d'attente, mordu par des jalousies vaines et des désespoirs étouffés. Et ce perpétuel ballottement entre l'incertitude douloureuse et l'espionnage infâme achevait peu à peu l'œuvre néfaste. Sa conscience s'était tue. Une décomposition morale s'accomplissait dans cet âme d'enfant. Ses scrupules s'effritaient. Il se ruait à la vérité avec une rage de bête, sourd aux révoltes de sa délicatesse comme aux derniers accès de raison saine, durant lesquels il rêvait de sa mère chaste, très haut dans sa vertu. Depuis la messe entendue en commun le dimanche précédent, leur vie était entrée dans une phase nouvelle. Madame Deschartres ne paraissait point avoir pardonné à son fils sa sortie violente, et lui restait blessé, avec une rancune exacerbée contre cet homme, cause unique de ses souffrances, et des chocs se faisaient entre deux, rapides, tout de suite étouffés. Il causait, par phrases brèves et lourdes, avec de dures sonorités dans la voix, une amertume qui empoisonnait leurs pensées. Plus le temps avançait, plus il devenait hostile. Chez Madame Deschartres, une inquiétude mécontente, des colères mal réprimées contre cet enfant qu'elle ne retrouvait plus docile. Chez Stéphane, une acuité de perception, un ergotage maladif à propos des faits, une logique impitoyable qui le poussait à la rencontre des questions sacrilèges. Goutte à goutte, comme un fiel, la conviction entrait en lui. Il n'aurait su dire à propos de quoi, si c'était pour tel regard ennuyé, surpris chez sa mère, pour telle phrase, tel souvenir précisé, mieux dans sa mémoire, mais il en arrivait, à de certaines heures, à ressentir l'impression de la certitude, et telle était sa misère qu'il la souhaitait presque, la préférant au supplice lent du doute. Pourtant, malgré tout, l'idée que sa mère avait un amant était un problème auquel il ne s'accoutumait point. Chaque fois qu'il y pensait, il en revenait aux révoltes primordiales, trop humilié par cette chute possible, sentant qu'il en serait éclaboussé à n'oser plus lever la tête. Et il la revoyait durant cet office du dimanche qu'il avait écouté, lui, le cœur encore haletant de colère. Il la revoyait, agenouillée, le visage dans les mains, semblant absorbée par une extase, quelque vision divine immatérialisant son être. Comédie, alors, ses prières, cette ferveur grave qu'aucun n'égalait. Comédie où Dieu serait pris pour sauvegarde, allons donc. Il aurait tout admis, mais cela, non, ces hypocrisies gratuites, ce jeu des choses saintes, cet abaissement au mensonge inutile, il ne pouvait pas. C'eût été trop de honte à la fois. Il s'y refusait avec un élan, cherchant à s'arracher à la nuit abominable où son cœur se débattait. Cependant, sous l'impulsion de l'idée fixe, ses pudeurs, une à une, s'effaçaient. Maintenant, des images infâmes le poursuivaient. Il s'y accoutumait, perdant sa chasteté d'esprit si étrangement gardée, et c'était une chose inouïe, ces premières révélations de l'amour à un corps d'homme vierge, allant des hontes de l'adultère pressenti à l'évocation de brutalité sensuelle. Même comme les ignorants, il en exagérait les bassesses humiliantes, mêlant au peu qu'il en savait les sourdes excitations de sa chair, et à travers ses dégoûts, il arrivait à être mordu lui aussi par un vague désir de choses défendues. Ainsi, c'était cela, l'amour. Cela dont le nom jadis me faisait songer, mettant dans son âme des rayonnements d'aube. Cela qu'il avait fait tressaillir en écoutant Mouillac lui conter ses attentes. Cela qu'il s'était imaginé rencontrer, quand dans les tiédeurs amollissantes des soirs, une grande douceur l'envahissait. L'amour, cela, oh, quelle chute! Alors il en arriva à des susceptibilités irraisonnées, des nervosités sans cause. Le mardi soir, après le repas, Madame Deschantres lui parla de son père. Elle était ravivée par ses souvenirs. Son mari était âgé déjà quand ils s'étaient fiancés. Elle habitait Versailles, encore pensionnaire, dans un couvent que les religieuses augustines menaient. Une prison, ce couvent, bordé derrière les murs par les grands ombrages de l'avenue de Paris. Quand, durant nos promenades, il passait à cheval avec un cliquetis de sabre, toutes mes amies m'enviaient et j'étais si fier que je l'aimais. Ce simple mot « je l'aimais » qu'elle prononçait avec une sorte d'ironie suffit à bouleverser Stéphane. Il se leva brusquement et marcha dehors, au hasard, malgré lui, pensant aussi aux morts, son père. Il le retrouvait très lointain, déjà souffreteux et cassé, comme les malades que le gâtisme prend dans la force de l'âge et qui se révoltent avec des efforts inutiles contre le retour à l'enfance. L'œil clair, un perpétuel sérieux sur le visage, une tristesse dont le farouche écartait. Point d'affection pour son enfant, la même froideur rebutante que chez Madame Deschantres, car il semblait que, dans le ménage, tout fût desséché par une politesse sans trêve, si bien qu'à sa mort, après la grosse émotion causée par toute vie qui disparaît, après l'attirail noir des enterrements, on n'avait point senti le vide, mais plutôt un soulagement à une gêne inexpliquée. Ce soir-là, pour la première fois, en songeant à ce disparu si inutile dans sa vie, Stéphane éprouva brusquement la sensation d'un soutien évanoui. On eût dit qu'il devinait combien la vie est dure à ceux qui n'ont point de père. L'accueil revêche qu'elle fait aux jeunes riches de leur bon vouloir et des inexpériences de 20 ans. Quelqu'un manquait dans sa demeure, un être qui, par sa seule présence, eût évité les catastrophes possibles, écarté les terreurs de leur présence. Et comme Madame Deschantres, il se mit à en appeler au passé, ce passé toujours regretté, ayant des visions de temps heureux où un beau cavalier caracolait devant une bande de fillettes en noir que des sœurs escortaient. Elle l'aimait. Qui sait ? Comédie peut-être. Comédie, cette affection rétrospective, comme les effusions de piété, les religiosités affichées. Quoi qu'il fît, où qu'il se réfugiât, le doute accusait toujours au fond de lui, tenace, torturant. Justement, comme il errait, luttant contre l'envahissement des soupçons, il entendit des pas et fut pris de frayeur. Il se retourna, car dans la nuit, les moindres bruits le remplissaient maintenant de terreurs inexpliquées. À quelques mètres de lui, un homme venait avec une démarche lente, et d'un coup d'œil, il le reconnut. C'était Ferramus, lui, à 7 heures. Il crut défaillir, et emporté par un mouvement de rage, l'appela. « Hola, cousin !» L'ombre ne répondit pas, mais disparut dans un taillis noir. Pourtant, il ne s'était pas trompé. C'était le médecin, pas un autre. Il allait crier de nouveau quand il comprit sa sottise. Il venait l'avertir lui-même qu'il montait la garde. Quoi d'étonnant alors que celui-ci eût reboussé chemin ? Et soudain, il se trouva encore naïf, par trop gamin, joué. Décidément, il ne savait pas bien son métier. Il n'espionnait pas en silencieux. Il se vendait à la première attaque. Il fallait changer, faire mieux. Maintenant qu'il sentait ce Ferramus se rôder autour de leur demeure, il devenait exaspéré, et en rentrant, il frappa la porte avec violence, s'amusant à faire grincer les verrous qu'il mettait. « Pourquoi fermer si tôt ?» demanda Madame Deschantres, qui paisible lisait un journal. « Bon, c'est pas, répondit-il, des gens peuvent passer le soir et nous voler. » En disant cela, sa voix s'étranglait, et il s'acharnait à faire tourner le pêne avec la grosse clé, comme pour affirmer son chez-lui, montrer qu'il savait se barricader contre l'ennemi envahissant. Puis il monta dans sa chambre, voulant simuler le sommeil et attendre. « Bonsoir, ma mère. Ah, tu vas te coucher plus vite que d'habitude. Oh, je suis là, dit-il. « Alors bonsoir, répondit-elle sèchement. Mais au bout d'une heure de veille dans son lit, il fut pris d'une invincible torpeur. Depuis 3 nuits, il n'avait dormi qu'à peine. La fatigue de tant d'heures douloureuses l'accablait. Il succomba, s'imaginant encore dans ses rêves surveiller la maison et empêcher quelqu'un d'entrer. À l'aube seulement, il s'éveilla. Alors il s'emporta contre lui-même, s'en voulant de cette nuit passée dans l'inaction. Ah, les heures où il gémissait d'espionner sa mère, comme elles étaient loin désormais. Ni remords, ni chagrin, seulement l'inavouable vouloir de la surprendre. Il s'habilla très vite et descendit. Pendant d'ouvrir la porte, il fut stupéfait, les verrous n'étaient plus poussés. Ou sa mère était sortie, ou quelqu'un était entré. Une logique impitoyable l'emprisonnait dans ce dilemme. Cela coïncidait si brutalement avec la rencontre de Ferramus qu'il en demeura anéanti. Si seulement un vagabond, l'être sans feu ni lieu, qui passe de nuit, était venu les piller, il aurait été soulagé, presque content. Il parcourut la salle à manger, la cuisine, cherchant en vain une trace d'effraction, mais tout était en ordre, méthodiquement fermé comme d'habitude. Point de milieu, sa mère ou cet homme. Et de trouver toute chose dans le classement parfait, il s'irrita. Cet ordre ne cadrait plus avec sa vie. Il s'y trouvait dépaysé, haïssait cette habitude d'autrefois comme une obsession. Il voulut y échapper, aller dehors, respirer un peu de raison dans la fraîcheur matinale du jour qui se levait, quand dans le couloir d'entrée, il se heurta à Madame Deschantres. L'un et l'autre eurent un brusque mouvement étonné et se regardèrent. Elle descendait encore en vêtements de nuit à demi dévêtue et semblait embarrassée de cette rencontre inattendue. « Ah, te voilà !» fit-elle lentement. « Oui, je me suis levée. » Puis sans lui laisser le temps de répondre, il eut une phrase brève. « Vous savez qu'on est entré cette nuit ?» Je viens de trouver les verrous tirés. » Madame Deschantres eut un sursaut à peine réprimé. Elle répliqua d'un ton un peu plus bas. « Oui, je descendais justement pour les refermer. » Stéphane eut un vertige. « Mais qui était-ce ?» Et elle répondit rudement. « Mais est-ce que ça te regarde ? On dirait que tu deviens peureux. Oh, cela manquait pour faire de toi une fille !» Il la regarda alors avec une expression navrante. « Eh bien oui, j'ai peur » s'écria-t-il. Ah, cela était parti de ses lèvres, arraché par l'angoisse inouïe où elle le tenait suspendu avec ses mots à double sens. Et dans ce cri, il avait jeté toute cette erreur, n'ayant même plus la pudeur de les sceller devant sa mère. Mais celle-ci eut un rire méprisant. « Mais il n'y a pas de quoi. C'est moi qui suis descendu, ayant cru entendre appeler au feu. Oh, j'ai oublié de refermer, et puis m'en étant souvenu, je redescendais. » Elle avait repris une tranquillité railleuse pour raconter cela, comme si se fût agi de la chose la plus naturelle du monde, et en remontant, elle continua. « Ben, puisque tu es déjà debout, inutile que je les pousse, ces fameux verrous. Pour une demi-nuit passée, portes ouvertes, j'espère bien que tu ne feras pas une maladie, ce serait trop bête. » Stéphane demeura immobile, la regardant disparaître. Cette fois, sa mère lui avait menti. Il se dit cela froidement. C'eût été un fait indifférent, ne le touchant en rien, il aurait gardé la même impassibilité. Rien ne lui prouvait ce mensonge, mais il savait que cela était, que sa mère n'était point descendue. À l'agitation sans trêve, au nervosisme maladif des journées dernières, venait soudain de faire place un calme effrayant. Quand la fille vint apporter de la métairie le lait du matin, il demanda indifféremment « Y a-t-il eu le feu quelque part cette nuit ?» Elle répondit « Oh non, nous n'avons rien entendu. À une autre heure, cela l'aurait bouleversé. » Cette fois, il s'y attendait, n'ayant posé sa question que par acquis de conscience. Ce n'était pas un renseignement, mais une vérification qu'il cherchait. Toute la journée, il s'enfonça dans une lecture et resta muet. Il ne souffrait pas, n'existait pas, était plutôt une machine surchauffée qui, au premier choc, éclatera. Tout en lui était si raidi qu'il frisait la conscience. Il en était à ce point de tension extrême des facultés qu'elle se balance exactement en équilibre instable. Il aurait pu dire d'avance que le lendemain, son espionnage serait clos. Même il se sentait un peu acteur, justicier, paradant devant lui-même avec une pose enfantine et ses défaillances d'orgueil qui font de l'âme leur jouet dans les heures critiques. Un temps gris, depuis la veille, le vent d'automne soufflait en bise, enveloppant les murailles de gémissements tristes. Les arbres se courbaient avec des teintes noires et des rafales de poussière venaient de l'air, faisant craquer les vitres comme sous le choc des grêlons. Et lui, d'ordinaire sensitif aux variations soudaines de lumière et de soleil, se trouvait bien, ne s'apercevait pas de la mélancolie d'automne que le ciel répandait. On était au mercredi, vers 6 heures, Sidonie et Baptistine arrivèrent pour le fameux dîner déjà remis 2 fois. Baptistine avait abandonné le bonnet de tuiles blanc pour en revêtir un autre noir, un nœud de faille. Un châle de deuil reluisait sur ses épaules, accentuant leur maigreur décharnée. Sidonie, au contraire, en vieille robe de chaque jour, avait une évidente mauvaise humeur dans la mise, un air rechigné d'enfant mal élevé qu'on traîne. Elles trouvèrent Stéphane seul dans la salle à manger. Il répondit au bonjour avec embarras, puis s'assit et resta silencieux. Sidonie crut lire dans cet accueil un ressentiment à propos des incidents de la Mercier, mais il n'y pensait point. Tant que le médecin ne serait pas là, il lui semblait que personne ne serait venu. Même par contenance, il continua de tourner les pages du livre ouvert devant lui, uniquement pour mettre dans la pièce le bruit des feuillets remués. Baptistine, alors, ne pouvant rester en place, inspecta le couvert mis. « Voyez donc, Sidonie, ils ont apporté du linge damassé, c'est joli, hein ?» Sidonie ne daigna point regarder. « Oh, la campagne, c'est bien inutile, » fit-elle distraitement. « Ça n'empêche pas qu'il soit bon d'en avoir, à condition de ne point le faire ronger par le dessus, comme c'est arrivé pour le vôtre. » Et comme Sidonie ne répondait pas, « Vous souvenez-vous, vous l'avez fait brûler pour votre début de ménagère ?»« Parbleu, » fit celle-ci aigrement, « si on comptait ainsi tout ce que vous avez abîmé, vous !» Mais Madame Deschantres les interrompit, entrant enfin avec le médecin qu'elle avait aperçu dehors, arrivant de la chasse. « Entrez, cousin, vous n'êtes pas en retard !» Très gracieuse, elle salua les deux femmes. « Oh, mademoiselle, que c'est aimable à vous !» Puis elle chercha des yeux son fils. « Vous savez, » dit-elle, se tournant vers le médecin, « que j'ai des excuses à vous offrir. » Stéphane s'était levé tout à coup. « Vous dites, ma mère ?»« Je dis que tu m'as prié de faire des excuses à ton cousin. » Monsieur Veramus s'écria. « Par exemple, à quoi bon ?» Mais Sidonie l'interrompit. « Mais à quel propos des excuses ?»« Oh, rien, un enfantillage, n'en parlons plus. »« Si, parlons-en, » répliqua Madame Deschantres, en fixant Sidonie avec un air de défi. « Stéphane a omis dimanche dernier de saluer poliment votre mari. » À son âge, on ne devrait plus avoir besoin de notions de savoir-vivre. Ah, voilà pourtant le résultat des peines que je me suis données pour lui. Vraiment ? Dit Sidonie pensive. Baptistine éleva sa voix aigrelette. Je n'en crois rien. Bien sûr, monsieur Stéphane est mieux élevé que vous ne le dites. Le médecin eut alors un mouvement de dépit. Oh, laissons cela, je vous prie. Parlons d'autre chose. J'ai tué deux perdreaux. Un dîner sans cordialité, avec des affectations de politesse cérémonieuse, d'aménité guindée. Vers la fin pourtant, le mutisme de Stéphane exaspéra Madame Deschantres. Et devant tous, elle l'interrogea. « Mais qu'as-tu aujourd'hui à faire cette tête ?» Il répondit qu'il souffrait de migraine. Il se retirerait tout à l'heure, si on le voulait bien. « Ah, la migraine !» s'écria Baptistine. « Un mal de famille, alors !»« Certainement, » répliqua le médecin. « Cela se transmet comme d'autres maladies. » Et il indiqua des remèdes. Compresse d'eau sédative, bain de pied, repos absolu dans l'obscurité, essayer de dormir, éviter le bruit. Il se tourna vers Madame Deschantres. « Vous devriez m'appeler quand vous en avez. Je vous en débarrasserai très vite, en une heure ou deux. » Elle eut un air de martyr résigné. « Oh, mais je vous dérangerai trop souvent. »« Oh, du tout, les vacances sont des vacances pour tous, même pour les médecins. On ne fait pas de maladie pendant ce temps-là, tout au plus des enfants. » Il eut son rire éclatant de gaieté, et en pouffant, donnait des secousses qui faisaient danser les verres avec un cliquetis. Mais Stéphane s'était levé. Décidément, il se sentait pris et allait suivre les prescriptions de M. Veramus. Bon, « Ne vous tourmentez pas, ma mère, je dormirai, ce sera passé demain. » On s'était dérangé de table sous le coup d'une inquiétude subite. Le médecin voulut tâter son pouls. « Oh, un peu d'agitation. Non, rien de grave. Non, 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 rien de grave. » Sidonie, à son tour, lui serra la main et le fixant, lui demanda à mi-voix. « Mais qu'est-ce que vous avez donc ?»« La migraine, je vous l'ai dit. » Elle haussa les épaules. « Ah, d'autres, » fit-elle. « Allez, dormez bien tout de même. » Il sortit, entendant derrière lui la conversation se ranimait. Baptistine se fendait d'amabilité sur son compte, et la voix de Madame Deschamps s'élevait. « Oui, mademoiselle, je me suis sacrifiée à lui. Oh, je crains pourtant qu'il n'arrive jamais à vous ressembler. » Il y eut un rire bruyant, puis plus rien. Il monta. Il avait besoin d'être seul, de retomber dans la tente solitaire où sa journée s'était consumée. Pourquoi s'était-il retiré? Il ne savait même pas. Restait sans plan préconçu, obéissant à ses impulsions machinales avec une confiance aveugle. Il était convaincu que cette nuit serait la dernière où il traînerait ses doutes et ne tremblait pas, n'examinant aucune éventualité possible. Il s'étendit tout habillé sur son lit, ferma les yeux. Aucun sommeil. Il avait laissé sa fenêtre ouverte et écoutait les bruits du dehors, la vague agitation des feuilles sous la pluie tombante. Par moments arrivaient aussi des éclats de voix, le rire de Ferramus, qu'il reconnaissait d'instinct entre tous. Vers 10 heures, il entendit ouvrir la porte. La voix sèche de Baptistine s'élevait pour dire adieu. Puis des pas, sa mère venue frapper très légèrement pour savoir s'il dormait déjà. Il ne répondit pas, alors elle redescendit. De nouveau, le silence se fit. Il lui semblait s'enfoncer dans des ténèbres. Une frayeur mystérieuse le remplissait, comme si quelque événement terrible se fût approché de lui. Et peu à peu, son cœur se mit à battre. Une grande agitation s'empara de lui. Il aurait voulu marcher, se démener, mais il eut la crainte de faire du bruit. Il resta immobile. Une heure et demie, du même silence tiède. Une torpeur le saisit. Il eut beau se secouer, ses paupières s'étaient alourdies. Il entra dans un demi-rêve et s'endormit enfin d'un sommeil lourd. Il s'éveilla, croyant avoir longuement dormi, et brusquement il se redressa sur son séant. Un vent très froid entrait par la fenêtre ouverte, lui causant un tremblement nerveux. En dépit de l'étourdissement vague que laissent toujours les sommeils lourds de fièvre, il n'eut pas une seconde d'hésitation ni de regret pour son abandon momentané. Il avait la conscience nette que rien ne se passerait cette nuit sans qu'il ne le sût, et tout de suite il voulut reprendre sa faction, dominé par les mêmes volitions automatiques qui, depuis le matin, le faisaient agir. Quelle heure pouvait-il être? Immobile, il attendit les sonneries de l'horloge qui lui viendraient de belle pêche. Depuis longtemps, les Ferramus avaient dû quitter la maison. En s'endormant, il avait eu la perception nette de leur départ. Après seulement, tout s'était effacé dans l'apaisement des rêves. Il était resté ainsi pendant des heures, 2 ou 3 peut-être, et comme il se sentait encore ensommeillé, il quitta son lit, lentement se dirigea vers la fenêtre pour respirer mieux et s'y remettre. Dehors, la nuit s'éclairait de lueurs pâles. La pluie avait cessé, seules des gouttes glissant des feuilles à intervalles lents mettaient un léger crépitement sur terre. Autour de la demeure, devant les massifs d'arbres, une ombre impénétrable régnait. Dans les lointains seulement, ces noirs viraient au gris. On eût dit des estompes floconneuses tracées autour des silhouettes d'horizon. Et ce qui le frappait le plus fut l'immense silence reposant sur l'étendue, un silence que rien ne troublait. Ni bruit d'être, ni sifflement de bise, ni cri d'insecte, une sorte de recueillement religieux qui planait au-dessus des choses, donnant dans l'obscurité la sensation tragique d'un drame prochain. Il songeait, guettant la cloche de l'église. Avant le lever du jour, il fallait qu'il sût enfin. Un hasard allait venir, mais lequel? Oh, peu importait, mais ce hasard l'aiderait fatalement. Il n'avait même point d'anxiété. Malgré la fièvre qui lui mettait des brûlures sur la chair, il semblait encore plus calme que dans le jour. Raisonnait sa situation avec une logique tranchante et sans faux fuyant, éprouvait presque une satisfaction à l'idée que tout à l'heure s'en serait fait de son espionnage et de ses doutes. Très lente, dans l'éloignement de la nuit, une horloge tinta un premier quart. Il écouta anxieusement, espérant qu'il s'en ajouterait d'autres et que la sonnerie d'heure suivrait. Rien. De nouveau, le silence s'étendait. Il fut désappointé. Trois autres quarts à attendre pour savoir s'il devait se presser ou s'il pouvait prendre son temps. Alors il se put à suivre de la pensée le retour des invités. Sidonie et Baptistine, continuant sans doute d'agiter l'irritante question du linge damassé, le médecin de son côté avec l'ennui de leur dispute. Avait-on seulement été dupe de sa migraine? En répondant à Sidonie, il s'était senti rougir. Il s'en voulait de cette rougeur bête comme d'une faute. Mentir ne lui était rien. Et au contraire, cet involontaire aveu lui pesait comme une carte mal jouée. Et distraitement, dans sa rêverie, il s'était appuyé sur le chambranle, penchant le corps au dehors pour se sentir mieux enveloppé des caresses de l'air froid, quand, au-dessous de la croisée, à la chambre de sa mère, il aperçut un peu de lumière qui passait. Malgré lui, il eut un brusque mouvement. Sans connaître au juste l'heure, il la savait tardive. Madame Deschantres, n'ayant pas l'habitude de prolonger ses lectures si avant dans la nuit, une telle veille l'étonnait. Il réfléchit. Peut-être s'était-elle trouvée souffrante. Une insomnie était possible, ou bien sa lampe brûlait encore, oubliée par mégarde, dans l'envahissement du premier sommeil. Pourtant, il continuait à regarder, s'obstinait dans ses questions, quand des menus détails le frappèrent. Contre l'habitude, les volets étaient fermés. Seule une planche de l'un des vantaux, partie sans doute au jour de Vendôtan, laissait passage à la clarté. Cela formait par terre une longue barre à peine large. Et des deux côtés, à distance inégale, il y avait deux autres points lumineux produits par les trous qui servent à retenir les battants au mur. Dès lors, il examina ces trois lâches avec une tension d'esprit obstinée, comme si dans ces choses insignifiantes quelques révélations graves avaient pu se cacher. Il les détaillait avec une minutie de procureur. Sans accepter ni rejeter l'indisposition de sa mère, il ne s'arrêtait qu'aux faits matériels et vus par lui. En cela seul, il avait foi. Et soudain, tandis qu'il continuait de surveiller le sol, il tressaillit. L'une des lueurs projetées, correspondant à l'un des trous des volets, avait disparu. Donc on marchait dans la chambre. Qui? Sa mère ou quelqu'un d'autre? Brusquement, l'hypothèse que le médecin pouvait être là avait surgi dans sa pensée, raccrochée à ce simple hasard. Il ne se révolta point contre elle, n'eut ni défaillance ni douleur. Du moment que lui, Stéphane, était là, veillant, cette présence de l'autre dans la chambre était possible, probable même. Pourtant, il se redressa. Dans cette nuit où son avenir se jouait, Il n'aurait rien voulu abandonner à l'excitation de la fièvre. Il avait beau se sentir fort et armé de volontés aveugles, il ne fallait point qu'il perdît ses minutes en divagations inutiles. D'autres choses avaient pu causer cette éclipse momentanée. Une simple feuille passant dans sa chute devant le rayon de lumière, une des branches de la glycine interceptant l'office du ventail à l'extérieur, un déplacement de rideau. Alors il s'absorba dans sa contemplation, secoué par une attente un peu nerveuse. Et par terre, la tache avait reparu. Une seconde fois, elle s'évanouit, puis au bout d'un instant, se remit à briller. Certainement, on marchait. Jamais il n'aurait pu admettre une telle répétition réglementée d'un même fait, sous l'influence de causes fortuites. Et pour se convaincre, arrêtant le bruit de sa respiration, il scruta le calme de la nuit, cherchant à distinguer un bruit de pas, des voix, des craquements, quelque chose l'assurant que sa mère n'était point seule et que cet homme se trouvait près d'elle. Le même silence qu'avant. En dehors de lui, rien ne répondait. Il avait les oreilles bourdonnantes à chacune de ses pulsations, entendait l'afflux de sang montant à son cerveau, et cela remplissait pour lui l'obscurité de bruits étranges qu'il ne savait plus distinguer des réels. Très loin, l'horloge sonna la demi. Il respira, il n'était réveillé que depuis un quart d'heure. Grâce à la surexcitation cérébrale où il se trouvait, aux déductions multiples auxquelles il se livrait sans répit, il avait cru le temps écoulé bien plus long. Dieu merci, des heures étaient devant lui. Cependant, son inquiétude augmentait. L'idée que Ferramus pouvait être au-dessous de lui l'agitait sourdement. Il colla l'oreille contre terre, mais le plancher, comme dans les vieilles demeures à formidable charpente, ne lui livra rien. Lassé, il se rapprocha de la croisée et attendit. Tout à coup, il crut distinguer un bruit de voix. Hallucination ou rêve? Pourtant, il n'hésita pas. La certitude était entrée en lui, fatale, attendue presque. Un homme était avec sa mère. Ferramus, pas un autre. À cette pensée effroyable, il n'eut même pas un mouvement de recul, mais un désir fou lui vint d'entendre encore, de voir de ses yeux, d'aller jusqu'au bout de la vérité, sans en perdre une parcelle. Et brusquement, il se pencha vers le vide. Au-dessous de lui, la lumière passait à travers la fente du volet, avec des teintes affaiblies, et cela l'appelait comme un aimant. Il rêvait de voir par là, d'avoir enfin ce témoignage des yeux, le plus sûr de tous, semble-t-il. Pris d'attirance, il se pencha encore plus bas, haletait, le corps plié en deux. Déjà, en allongeant à peine la main, il la plongeait dans la lueur. Alors il continua de descendre, ayant cette fois des gestes félins, une prudence lente, le besoin de s'aguerrir progressivement devant ce trou noir au-dessus duquel il pendait. Mais à mi-chemin, il s'arrêta épuisé. Il éprouvait des sueurs brusques à l'idée de tomber en bas. Grâce à l'obscurité, le sol semblait s'enfoncer très loin, comme au fond d'un gouffre subitement creusé. Il s'effraya. Des secondes d'immobilité torturante qui lui semblèrent horriblement allongées. Il retenait son souffle, écoutait vainement, et il désespéra d'arriver à voir, des douleurs aiguës le prenant dans les muscles, avec des fourmillements qui le paralysaient. Se haussant brusquement, il dut se retrouver dans la chambre, et meurtri de fatigue, reprendre haleine. Cet homme était là, mais qui le prouvait? Rien. Un bruit si peu distinct qu'il pouvait en douter. Cette lumière filtrant à la croisée de sa mère, et pourtant, sa conviction était faite, indéracinable. Il jouissait d'une double vue, et le même désir que tout à l'heure le ramena invinciblement à la fenêtre. Il voulait voir, par ce volet entrebâillé, ne rien perdre de ce qu'il pressentait. Alors de nouveau, il s'inclina vers le vide. Il s'était dressé sur la pointe des pieds, ne tenant plus au plancher que par un miracle d'équilibre, et des mains, il s'accrocha à la glycine, tâtant dans l'obscurité pour trouver un appui. Il avait la tête congestionnée, le corps brisé par l'angle du chambranle. Malgré tout, il arriva à replonger sa main dans la clarté comme avant, mais resta là, hésitant entre la frayeur du vide et sa volonté furieuse. Si seulement les volets eussent été ouverts, il aurait pu distinguer un va-et-vient, peut-être des formes d'ombre, ou encore il aurait suivi par terre le drame se passant là. Seule la lueur filtrait toujours, très douce, semblant un rayonnement d'étoiles. La gardienne des rêves paisibles, plutôt qu'une surveillante de nuit d'amour. Pourtant, comme il restait ainsi suspendu, il distingua encore un bruit de baiser cette fois. Aucun doute, il n'aurait pu le confondre avec un des murmures de la nuit ou le battement de ses tempes. C'était bien des baisers que cet homme donnait ou recevait, et cela fut pour lui comme un coup de fouet. Brusquement, il lâcha pied dans la chambre, tout entier vers le vide, retenu seulement par la glycine et le frottement du chambranle. Alors il éprouva une impression de soulagement. Il arrivait, touchait au volet, et déjà il tendait le cou, se croyant au but, quand la branche de glycine plia légèrement. Il eut une secousse nerveuse, croyant crouler en bas, et d'un bond se rejetant en arrière, se raccrocha à la croisée. Il était devenu très pâle, ses jambes fléchissaient. Ce danger qui venait de l'effleurer l'anéantissait, et quand il se rapprocha une troisième fois, attiré toujours par la lueur fascinante, le vide lui jeta son épouvante. Il n'osa plus tenter. Son impuissance l'exaspéra. Il fallait à tout prix qu'il s'assurât. Il ne pouvait ni rester là, inactif, ni espérer une solution inattendue. Et tout à coup, il s'étonna. Mais comment n'avait-il pas songé à descendre jusqu'à la chambre de sa mère? Au moins, s'il n'arrivait pas à voir, il entendrait. Tout de suite, à tâtons, il alla dans l'escalier, descendit les marches. Il avait peur de rompre le silence et, chaque fois qu'il posait son pied par terre, restait une seconde avec l'angoisse d'un craquement possible du plancher. Arrivé au palier de Madame Deschantres, il colla son oreille contre la porte. Il tressaillit. Encore il avait entendu des bruits de baisers donnés, un chuchotement de voix basse, des mots soufflés, sans doute dans les alanguissements du lit, et cela lui arrivait indistinct, comme un bourdonnement. Ah, s'il avait voulu douter, c'était fini. Il ne le pouvait plus. Il n'eut qu'une simple secousse passagère. Soudainement, le visage figé et les muscles raides, il continua d'écouter. Ses nerfs étaient parvenus à un tel excès de tension qu'il semblait un somnambule lucide. Dans cette constatation effroyable, définitive, seule une extraordinaire impression de soulagement le dominait. Il était au bout. Il avait fait ce qu'il voulait, il savait. En même temps, une énergie sombre s'était emparée de lui, et une sorte de joie, à la fois délirante et raisonnée, le prenait à l'idée que l'autre, désormais, ne pourrait plus sortir de la chambre sans le rencontrer face à face, lui, la justice. Elle venait donc, la justice, enfin. Fini les hésitations, fini les tourments, le supplice de mentir. Les comptes allaient se rendre, et avec un bonheur terrifiant, il fêtait cette fatalité, mettant tôt ou tard la main au collet des maudits pour niveler d'un coup l'inégalité des sorts. Oui, Dieu merci, ce n'était pas un rêve, la vengeance était là. Mais tout à coup, comme il s'emportait dans l'idée de cette expiation, il pâlit. Derrière la porte, il avait entendu des craquements de plancher, le lit remué par des secousses brutales, comme un bruit d'altercation, des exclamations étouffées. Devinant ce qui s'accomplissait, pour la première fois, il se rappela sa mère. Elle, avec cet homme. Alors il eut envie de s'écarter. Ses grincements mettaient en lui une colère formidable contre Ferramus. Et au moment de reculer, il se révolta. Non, restez là, jusqu'au bout. Il était venu pour cela, pour être le témoin, l'instrument de vengeance et de justice. Il fallait qu'il restât, quoi qu'il se passât. Ah, lui faire payer tout en une seconde. Il eut un mauvais rire. Ah, tout à l'heure, ce serait son tour. Il y eut un arrêt, un assoupissement d'un instant, puis les bruits reprirent, comme si les deux amants étaient eux aussi saisis de rage, galvanisés dans une dernière excitation. Et soudain, le silence tomba, un silence écrasant, morne. Stéphane écoutait toujours. Dans le couloir, une température fade que traversaient les odeurs de graines germées, venant du grenier. Une sueur perlait sur son front. Et dans ce calme brusquement revenu, il se demanda ce qu'il pouvait bien devenir pour qu'on n'entendît plus ni baiser, ni remuement, ni paroles basses. Mais l'absence de bruit persista. Il dormait, sans doute, lassé de tout à l'heure. Alors, lui s'adossa au mur, les bras croisés. Il attendait. Or, rien n'aurait pu le faire partir de là. Sa mission de justicier le rivait aveuglément à cette garde infâme montée devant la porte de sa mère, tandis qu'elle couchait avec son amant. Il ne ressentait aucune douleur. Il était dur et froid comme le glaive d'acier qui doit tuer la victime. Dans cette situation effrayante où il se débattait, il gardait seulement la haine de l'homme, haine qui grandissait avec l'attente, haine de faible que les événements ont jeté hors des gonds, et qui marche devant lui les yeux fermés, culbutant tout jusqu'à ce qu'il soit exterminé lui-même. Eux dormaient, et c'était long, long, cet intervalle mis dans leur nuitée. Il en vivait les heures décuples, n'ayant même plus la ressource de voir le ciel ou d'interroger les horloges, enfermé qu'il était dans l'obscurité tiède de ce palier d'escalier. À mesure que le temps passait, sa volonté se tendait encore plus. L'idée de la vengeance se cristallisait dans son cerveau. Elle devenait le point unique, absolu. C'était bon de souffrir quand il se débattait dans les doutes ou les ignominies de l'espionnage. Mais maintenant qu'il avait devant lui la liberté, le bonheur d'achever cet homme, il se livrait tout entier à une jouissance infernale, à la fois joie et douleur, qui l'enivrait. De nouveau, il tressaillit. Le lit s'était réveillé et des craquements recommencèrent, cette fois plus fréquent, avec des frissonnements exaspérés. Lui s'était remis à la porte, ne perdant aucun soupir, ayant l'intuition des étreintes, des délires où il s'emportait, et il se demandait si cela aurait une fin, remué malgré cette impassibilité inouïe où il se tenait depuis 24 heures. Sa rancune s'exaltait. Comme il ferait payer double tout à l'heure. Ah ! Comme il allait sauter à la gorge de cet homme et le tuer. Car il le tuerait, c'était inévitable, fatal. Rien que cela pouvait expier suffisamment. Le tuer. Ah ! Quel soulagement ! Il écoutait avec une folie d'attention. Se pénétrait de cet amour, en savourait la longueur, se trempait avec délices dans l'horrible constatation. Même il avait une acuité de perception inaccoutumée, suivant les moindres détails. Et quand ils cessèrent, il s'effraya de les voir se rendormir encore. Mais ce délai lui fut épargné. Il les entendit se parler, une causerie à voix basse, comme après une cérémonie religieuse, et tout à coup il distingua le remue-ménage des draps froissés, l'homme quittant le lit, se promenant dans la chambre pour retrouver ses vêtements. Il percevait le grincement du double bouton sur le col pendant qu'il remettait sa chemise. Le bruit du pantalon tombant à terre au moment où il le reprenait sur une chaise. Puis ce fut le tour des bottines, s'y reprenant à deux fois pour l'une d'elles avec de gros soupirs, des soupirs de fatigue à cause de son corps plié. Une joie féroce envahissait Stéphane. Il réfléchissait. Dans 5 minutes, il aura mis son gilet et son vêtement. Il ouvrira la porte et je me trouverai devant lui. Ensuite, oh, ce sera le passé enterré. Des nuits où l'on pourra enfin dormir. La liberté, l'autre fois retrouvée. Mais tout à coup, en même temps que les bottines du médecin grinçaient, il distingua des piétinements légers. Sa mère, qui pieds nus, avait dû se lever. Et encore un bruit de baisers. L'adieu d'amoureux que l'aube dérange. La clôture d'une nuit heureuse. Alors il eut peur. Devant sa mère, il n'osait plus rien. L'idée qu'en chemise elle allait paraître au seuil, accompagnant Ferramus, qu'elle aussi le surprendrait dans cette veillée innommable, le bouleversa. Une lutte s'élevait en lui entre sa vengeance à satisfaire et cette honte à subir. Et quand ils s'approchèrent de la porte, se donnant rendez-vous pour le vendredi suivant, cette honte l'emporta. Il descendit, ouvrit et referma doucement l'entrée et alla se blottir dans un angle de la visa, résolu d'y attendre. Au moins là, Ferramus passerait seul. Sa mère ne soupçonnerait rien, ni témoin ni pudeur pour l'arrêter. Seulement, dans la fraîcheur de l'air, il fut pris de frissons. La fièvre l'emportait, il dut se raidir, pris de la frayeur d'une défaillance. Dans la maison, une vague agitation s'était produite. La lumière avait disparu de la chambre de Madame Deschantres, apparaissait au-dessus de la porte du couloir. Ferramus devait descendre maintenant. Madame Deschantres, l'éclairant la lampe à la main, une descente très lente, car il semblait à Stéphane qu'elle dura plus d'un siècle. Mais que pouvait-il faire pour s'attarder à ce point? Si Marc était remonté par hasard, ou bien s'éternisait-il dans les adieux, les pressant en dernier? Et quand Stéphane distingua des pas dans le corridor, il eut une involontaire mise en garde, se préparant à la lutte. À cette seconde seulement, il s'aperçut qu'il n'avait même pas songé à prendre une arme. une clé, un couteau, enfin quoi que ce fût. Mais cela n'en impressionna point. Il se sentait de force à abattre l'Hercule. Pourvu qu'il arrivât à lui jeter les mains autour du cou, il serrait, et rien au monde ne pourrait plus l'en empêcher. Il serrait jusqu'à ce que l'agonie vînt, agonie délicieuse dont l'idée le grisait. Enfin la porte s'ouvrit. Stéphane eut un brusque raidissement de son être. Il avait cessé de grelotter, gardait les yeux fixes, était hypnotisé par la volonté unique qui le tenait. Aucun muscle de son visage n'aurait pu bouger. Seul le tenait la crainte qu'il ne pût aller jusqu'au bout. Ferramus parut sur le seuil, le dos encore éclairé par la lampe. Il ferma à son tour la porte, puis une minute resta immobile, regardant le ciel. D'un geste machinal, il fouillait sa poche. Quand il eut trouvé une cigarette, il l'alluma. Enfin, avec une lenteur béate, une délectation de chair repue et comblée, il s'avança, plongea la maison, obliqua vers Stéphane, le frôla presque. Alors, en cet instant où il le tenait devant lui, presque souffle à souffle, quelque chose d'inouï se passa en Stéphane. Il voulut tendre les bras, le saisir pour l'étouffer, mais ses bras restèrent immobiles. Il voulut crier, sa voix ne sortit pas. C'était la revanche brusque des nerfs, une paralysie momentanée, toute volonté interrompue, et tandis qu'il s'abattait sur le sol évanoui, l'autre, Ferramus, s'en allait de son même pas lassé, avec ce sifflement heureux qu'il avait coutume de faire dans ses promenades, alternant ce refrain avec les bouffées de cigarettes qui chaque fois mettaient un point rouge dans la nuit, toujours plus lointain. Quand Stéphane revint à lui, Ferramus avait disparu.